bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Grégoire qui a écrit un magnifique ouvrage sur la Wehrmacht au cœur de la France, 1940-1948. Alors, vu mon allemand, je ne vais pas donner le titre en allemand parce qu'il le dira peut-être. Donc, chez De Boré, les troupes allemandes en Auvergne, un magnifique livre qui a demandé beaucoup de travail. On va voir ça avec lui. On le retrouve dans quelques instants. Mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo, Lola, vas a acabar. Voilà, donc on va retrouver Christophe Grégoire tout de suite. Christophe, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors Christophe, nous c'est la première fois qu'on le reçoit, hein, mais c'est vrai qu'il a fait un magnifique ouvrage. Alors pour le présenter en quelques secondes, donc il est né à Clermont-Ferrand, sa vie professionnelle c'est moniteur de ski. Une belle vie quand même, hein, parce que c'est dans la neige, hein, c'est guide de montagne en plus.
De moyenne montagne.
De moyenne montagne, ouais, c'est sympa, hein, de faire son... Enfin, je pense que c'est une passion quand même, plus qu'un métier.
J'ai la chance d'avoir des métiers qui concordent avec mes passions. Hein, voilà. La montagne, l'histoire, le ski.
Alors, l'histoire, justement, on va en parler, parce que il y a eu d'autres... Alors, d'abord, comment tu es venu à agir à l'écriture ?
Ah ben, moi je suis passionné déjà de littérature, je suis passionné d'écriture. J'ai commencé dans des magazines spécialisés pendant une quinzaine d'années, et puis de fil en aiguille. Oh, je commençais même par un petit magazine associatif au départ. J'ai fait mes premières armes ainsi. Et de fil en aiguille, eh bien, j'en suis arrivé à publier un premier ouvrage qui m'a demandé 10 ans de recherche sur le corps franc des vampires, hein, en Auvergne, une unité les plus méconnues de la résistance française et du coup auvergnate. Et au bout de 10 ans de recherche, eh bien, j'ai publié un historique exhaustif, de autant qu'on puisse le faire, de cette unité du maquis. Et puis, parallèlement à ces recherches, je m'intéressais évidemment à leurs adversaires, aux troupes allemandes, et j'ai accumulé de la documentation afin de présenter aujourd'hui ce livre qui représente la synthèse des connaissances actuelles et puis éventuellement beaucoup plus de recherches supplémentaires.
Oui, alors c'est vrai que c'est un gros livre, hein, d'abord un grand livre magnifique, hein, qui il y a beaucoup de photos par contre. Il a fallu faire beaucoup de recherches, je présume, hein, pour avoir tout ça.
Voilà, alors donc jusqu'à présent, il y avait une vingtaine, peut-être une trentaine de photos dans tous les livres qui étaient utilisées un petit peu à toutes les sauces. Et donc là, on est une iconographie effectivement extrêmement riche avec environ 400 photos, donc la plupart qui sont inédites. Et donc, pour ces photos, eh bien, j'ai cherché dans les archives du monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, dans les musées, dans les collections privées, et puis tout ce que j'ai récolté en recherchant sur le sujet.
Oui, alors je vois, bon, on va en parler, hein, de ce livre. Donc, il a fallu aller dans un ordre où c'est... On est parti de 1940 jusqu'à 45,
ouais, c'est ça. Jusqu'à 48.
Jusqu'à 48,
carrément. Oui, jusqu'à 48, parce que on va commencer par la fin. Eh bien, la libération de notre territoire ne coïncide pas avec la fin de la présence des Allemands en Auvergne, puisqu'on a 50 prisonniers dans la région. C'est pas anecdotique, hein, puisqu'il y a environ 10 000 soldats qui sont prisonniers et qui vont participer à la reconstruction, eh bien, du pays. Alors, dans le Puy-de-Dôme, chez Michelin notamment, hein, mais ici, bien dans les fermes, pour faire des travaux de forestage, pour travailler dans les fermes, aider à la reconstruction.
Alors, on commence en juin 40, parce qu'en fait, les Allemands sont arrivés en Auvergne qu'en 1940.
Alors, les Allemands... pendant la campagne de France, ont franchi l'Allier et la Loire, sont arrivés à Clermont-Ferrand, ont poussé quelques pointes légèrement au sud jusqu'à Issoire, sont restés une dizaine de jours, et puis sont repartis les accords d'armistice. Nous étions évidemment en zone libre, et bien ils sont repartis au-delà de la ligne de démarcation. Voilà, donc on a la première partie du livre, et bien concerne leur arrivée dans la région, avec là des photos très très intéressantes qui ont été prises par des correspondants de guerre allemands, notamment l'entrée en Limagne, Rion et Clermont-Ferrand. Et puis après, ils sont repartis par le Forez, 10 jours plus tard, par la région de Thiers, pour aller en direction de Saint-Étienne. Oui. Alors, c'est intéressant, puisque l'unité qui est arrivée en juin 40, eh bien, c'est une unité SS qui était issu de la garde personnelle d'Hitler, la Leibstandarte SS Adolf Hitler, qui était un régiment motorisé, l'unité la mieux motorisée de l'armée allemande à cette époque-là, même si le terme de troupe d'élite est discutable, car ces types-là avaient un piètre entraînement. D'accord. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'inspecteur de la Waffen-SS de l'époque. Hein, si le Führer voyait ces hommes se battre, hein, il en aurait des migraines.
Ok. Ouais. Donc voilà. Donc c'est vraiment toute l'histoire là, hein, qui jusqu'en 1948. Hein.
Voilà.
Alors je vois qu'il y a des aussi il y a des alors c'est des passeports, c'est des voilà des papiers militaires. Hein,
voilà, il y a beaucoup
qui ont été retrouvés comme cela.
Oui, j'ai voulu présenter alors des documents et puis. Que le terme « les Allemands », ça ne soit pas quelque chose d'impersonnel, qu'on les voit, ouais. Qu'on voit ces Allemands qui étaient là. Je vois que tu feuillettes, eh bien, par exemple, là, on a une photo d'un pilote, d'un chef d'escadrille qui était à Aulna, à la base de Clermont-Ferrand. Et le hasard a fait que ce pilote a été le premier titulaire d'une victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le premier jour de la guerre, en Pologne, il a descendu un avion, un chasseur polonais, ouais. Et c'est la première victoire. Et aussi... Sur toutes les unités que je présente, on pourra reparler des différentes unités après. Ouais, ouais. J'ai voulu me présenter des livrets militaires, leurs photos. On apprend beaucoup de choses en consultant les livrets militaires des soldats.
Oui, c'est ce que je vois. Là, il y a pas mal de livrets militaires. Ils ont des noms allemands, bien sûr, mais bon, j'en prends un au hasard. Hein, L'Oberfreiter Karl Gegenmüller.
Gegenmüller.
Gegenmüller, oui.
Obergefreiter. Ouais, caporal-chef.
Caporal-chef. Alors, on dit qu'il était cheminot dans le civil, protestant, et qu'il avait été incorporé en 1941. Donc, voilà, c'est un exemple, hein, parce qu'il y en a plein d'autres. Hein, comme
voilà,
ça,
alors celui-ci appartenait au millième régiment motorisé, qui est une unité d'élite, là, pour le coup, de l'armée allemande, qui est venue exprès. Au printemps 1944 pour combattre le maquis, hein, notamment bien dans la région, pour aller sur le mont Mouchet et ensuite eh bien, partir dans le Limousin.
Alors bon, on disait, alors, on va parler de ces troupes allemandes parce que quand même il n'y en avait pas qu'une, hein, je pense. Donc il y a eu vraiment beaucoup de troupes en Auvergne.
Alors oui, tout d'abord il faut comprendre qu'il y a différents types d'unités qui ont des missions complémentaires mais très distinctes. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Je vais commencer dès l'implantation des Allemands. Ils vont installer ce qu'on appelle des états-majors chargés tout simplement eh bien, du contrôle de la région, de toutes les régions, et surtout du pillage en bonne et due forme des ressources du pays. Alors ici, au Puy, on a un état-major, hein, le Verbindungsstab en allemand 995, hein, aux ordres du colonel fameux Metger, qui dépend eh bien, d'un état-major principal de liaison, qui était à Clermont-Ferrand, hein, de von Brodowski. Eh bien eux, ils sont tout simplement en charge d'organiser... le départ des ressources vers l'Allemagne. Donc on a des postiers, on a des gens qui travaillent dans les gares, enfin on a toute l'infrastructure, et là on a souvent des gens qui sont d'une aptitude limitée au combat, mais qui sont sur place. Ils sont secondés par des services eh bien, de sécurité, que ce soit la police, que ce soit ce qu'on appelle communément la Gestapo, mais le terme est impropre, c'est la SIBO-SD, hein, qui est ici et qui traque l'opposition. Et puis on a aussi des troupes allemandes qui vont tout simplement être des troupes, des militaires d'occupation, qui viennent, on a un corps de réserve, même s'il n'est pas au complet. Alors un corps de réserve, c'est normalement théoriquement 3 divisions de réserve. C'est un terme un petit peu bâtard que, entre des gens qui effectuent leur classe, qui ont effectué leur classe et qui s'aguerrissent encore avant de partir au combat. Voilà, donc un corps de réserve, même s'il n'est pas au complet, qui est dans la région avec des troupes qui sont au puits. Et ensuite, eh bien, au moment des combats avec la résistance, nous allons avoir des unités spécifiques qui vont arriver pour combattre la résistance. Ce ne sont pas les mêmes.
D'accord.
Avec notamment les fameux... je les appelle les Mongols, mais ce n'est pas des Mongols. J'ai choisi ce terme, c'est farouche Mongol, car bien souvent, dans les campagnes, c'est comme ça qu'on les appelait. Mais ce n'était pas des Mongols. On pourra en parler après de ces...
D'accord. Oui, donc là, on va voir... les voir arriver, tout ça. Donc, ils étaient dans toute l'Auvergne, hein, que ce soit le Cantal, l'Allier...
Absolument.
Le Dôme, la Haute-Loire.
Absolument. Donc, dans le livre, on a une présentation exhaustive de toutes les unités qui étaient
réparties
dans nos régions, réparties dans nos 4 départements.
Alors bon, il y a un épisode là, printemps-été 44, bon, on est sur la fin de la guerre là. La Wehrmacht face au maquis, là ça a été quand même, il y a eu des durs combats en Auvergne.
Et oui, bien souvent les gens ignorent en dehors de notre région, car il suffit de se balader partout, chaque village, partout on a des stèles qui rappellent le sacrifice, hein, le sacrifice eh bien, de la population civile et puis aussi eh bien, des résistants, des FFI dans la région. Et nous avons eu eh bien, un des plus importants réduits de résistants, hein, plus important que le Vercors. On parle beaucoup du Vercors, et pourtant non, réduit du Mont-Mouchet, de Venteuge et de la Truyère, rassemble plus d'effectifs. On en parle moins parce qu'ils ne se sont pas fait massacrer, hein, même si ça a été in fine une défaite, mais une défaite qui a été beaucoup moins cuisante parce que uniquement à cause d'un manque de munitions, eh bien les maquisards ont rompu le combat et se sont dispersés et n'ont pas été massacrés, même s'il y a eu bien sûr des pertes importantes.
Oui, alors c'est vrai que bon, on reste toujours, puisqu'on est le Mont-Bouchet qui est devenu célèbre un peu partout, hein, puis qui a été bien restauré, hein, puisque enfin moi j'ai eu l'occasion. J'avais un copain qui avait un restaurant là-haut, qui tenait le restaurant à l'époque. J'avais été pour lui donner un coup de main, justement, parce qu'il y a un ministre qui venait à l'époque, je ne sais plus lequel c'était, le ministre. Mais c'était vraiment une grosse manifestation, hein, quand il venait au Mont-Bouchet. C'est quelque chose qui est toujours très visité, hein. Les gens viennent quand même voir ce Mont-Bouchet.
Ben oui, j'aimerais qu'ils viennent encore plus, et surtout depuis qu'il y a un nouveau musée qui a été une très très belle réalisation, tant d'un point de vue muséographique que des pièces qui sont présentées. J'ai humblement participé d'ailleurs à ce projet. Et j'aimerais qu'il y ait quand même encore plus de monde, que la mémoire ne s'oublie pas. C'est en visitant les musées, c'est en lisant des livres qu'on évitera que les horreurs du passé, peut-être, c'est ainsi qu'on ait une chance d'éviter à nouveau des tragédies.
Oui, alors bon, nous, bon, c'est plus l'Auvergne, puis c'est le Forêt, à quelques kilomètres de chez nous. Il y a un musée également à Estivareil, hein, ils ont fait un joli musée, très attractif, très ludique, hein. C'est vrai que là aussi, pour ne pas oublier, c'est la mémoire, hein, comme partout. Alors, c'est vrai que dans la région, on a eu quand même quelques combats. Les Allemands, je pense, se battant contre le maquis, ils s'attendaient... Parce que c'était, si on peut appeler ça une guerre normale, est-ce qu'il y a des guerres normales? Je ne suis pas sûr. Mais ce n'était pas vraiment la vraie guerre. Hein. Enfin, c'était une guerre particulière. Eux, ils ne se battaient pas contre des militaires, ils se battaient contre des gens qui avaient pris les armes. Et pour eux, c'était peut-être un peu compliqué quand même pour les trouver.
Alors, oui, c'était source de beaucoup de problèmes, puisque pour la résistance auvergnate, notamment, elle a essayé de se donner une apparence la plus militaire possible, c'est-à-dire avec des uniformes qui avaient été réquisitionnés en pillant les gendarmeries, en pillant les dépôts des chantiers de la jeunesse, de façon à essayer d'avoir un uniforme, d'avoir un brassard distinctif. Mais quoi qu'il en soit, alors... Malgré ses efforts, le gouvernement de Vichy et par les accords d'armistice aussi, les accords d'armistice avaient stipulé que tout Français qui prendrait les armes contre les Allemands serait considéré comme un franc-tireur. C'est le cas des types qui ont rejoint la France libre et qui étaient en uniforme américain ou en uniforme anglais, risquaient d'être, si en cas de capture, d'être tout simplement fusillés. parce que franc-tireur à cause des accords d'armistice. Et alors, la résistance a tenté de se faire passer comme une unité militaire. D'ailleurs, au Montmouchet, on a une tentative de reformation du 92 avec des bataillons. C'est vraiment, voilà. Malheureusement, bah, les Allemands ne voyaient pas tout à fait la chose de la même façon et ont considéré les résistants, la plupart du temps, les maquisards, comme des terroristes, comme des francs-tireurs, et les ont fusillés. Le résistant qui était pris tout simplement dans une imprimerie ou en faisant de la politique, il était déporté. S'il était pris les armes à la main, normalement, il était fusillé. Je dis bien dans la normale, parce qu'après, au Montmouchet, il y a des garçons qui ont été faits prisonniers, qui ont été épargnés. Il y a des gens qui ont été fusillés sans avoir d'armes aussi à la main. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et pour revenir donc au secteur, puisque je parle de l'Auvergne, mais on est obligé de déborder. Et là, c'est, l'exemple est très bon, c'est que le Puy est en Auvergne. Quand les militaires allemands, après la libération du Puy, donc c'est le 19 août hein, de mémoire, le Puy, la libération, les Allemands ont cherché une partie à quitter. Et c'est ces Allemands-là qui ont été pourchassés par la résistance et qui ont été coincés à Estivareil. Donc par des troupes venant de la Loire et puis aussi par des troupes du Massif central, des troupes de chez nous, le corps franc Hoche, le 4e corps franc d'Auvergne.
Oui, donc cette guerre 39-45, dont je rappelle qu'on avait Christophe Grégoire pour parler de son livre, son très beau livre, Les troupes allemandes en Auvergne 1940-1948. Alors, la Wehrmacht, c'est comme ça qu'on dit.
La Wehrmacht.
C'est sûr qu'il y a eu. Alors, est-ce qu'on a connu, des sauvageries comme ailleurs en France ou ailleurs, ou est-ce que c'était quand même une guerre mais un peu plus douce, si on peut dire qu'elle peut être douce?
Oh non, pas douce, non. Pas douce. On va parler des troupes qui étaient au Puy, par exemple. Je les évoquais tout à l'heure avec ces fameux. Alors, c'était des Tatars de la Volga, hein. C'était pas des Mongols, c'était la Volga Tatarish Légion. Hein. 6 compagnies de volontaires, alors ce qu'on appelle les Ostlegionnen, c'est des volontaires qui viennent du Caucase en général, des Caucasiens. Les Allemands ont capturé énormément de prisonniers au début de la campagne de Russie. Staline n'ayant pas signé les accords de Genève, en général, ils allaient dans des camps de concentration. Ils n'avaient pas le même traitement que les prisonniers français, un traitement beaucoup plus dur. Et jouant à la fois sur le nationalisme de ces gens-là, eh bien, les Allemands les ont divisés en deux grands groupes, ce qu'on appelle les Ostlegionnen, c'est-à-dire les légions du Caucase, avec une volonté indépendantiste face aux Russes importantes. Donc ils ont joué sur cette fibre-là, ils en ont fait des unités. Et parallèlement à ça, les Russes, les Biélorusses, eux, sont partis dans les troupes de l'Est. Et donc, au Puy, cette Volga Tatarish Légion, c'est des Tatars de la Volga. Alors, c'est pas des très bons soldats, on peut pas dire qu'ils soient particulièrement illustrés au Montmouchet, c'est d'ailleurs été assez pitoyable. En revanche, pour piller les fermes, là, ils avaient beaucoup plus d'aptitudes. Et puis pour faire des crimes tout simplement. Et c'est pour ça qu'à Estivareil, il y en a plusieurs, j'ai plus le nombre en tête, mais il y en a plusieurs qui ont été, au moins deux, qui ont été fusillés après avoir violé une femme. Ça donne un petit peu la sauvagerie de ces gens-là, puisqu'ils étaient encerclés, ils étaient coincés. Il y en a qui a quand même trouvé le moyen de commettre un crime au dernier moment. Donc il a été reconnu, ils ont été, je ne sais plus s'ils étaient un ou deux, à être fusillés. Et alors, ça c'est un fait, mais les troupes allemandes dans des villages, dans des hameaux où ils suspectaient la présence des résistants, ils ont été impitoyables, hein, ils ont mis le feu. Il suffit d'aller à Ruine, en Margeride, Clavière surtout, qui a été totalement, le village a été totalement détruit. Ils ont été sans pitié.
Oui, donc des moments où ils étaient, selon ce qui se passait du côté du maquis, eux, ils répondaient.
Voilà. Et puis sans oublier, alors là on parlait des villages, mais il y a toutes les exactions qui ont été commises contre les civils en prenant des otages, et en les fusillant, en les déportant, et au cours des actions aussi. Donc non, c'est des années qui ont été extrêmement sombres.
Alors l'Auvergne envahie par ses troupes allemandes, ils avaient, comment dirais-je, ils avaient un QG général, je veux dire, il y avait une tête qui était fixée où, enfin, qui était où, oui.
Alors, ça dépend. Ça dépend des services. Globalement, ils n'ont rien inventé. Ils ont utilisé la capitale régionale, la préfecture régionale, Clermont-Ferrand, pour installer le quartier général c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'ENP 588, hein, état-major principal de Légion, état-major principal de région 588 à Clermont-Ferrand, qui dirigeait donc notamment l'état-major de. Du puits donc qui lui était subordonné, donc Clermont-Ferrand, pour les troupes de campagne, ce corps de réserve, il était installé à Roya, bon, c'est la banlieue clermontoise, hein, ouais. Pour les auditeurs qui connaissent un peu moins bien le secteur de Clermont, mais enfin voilà, ça touche, voilà. Et c'est Clermont-Ferrand. En revanche, pour la CIPO SD, la Gestapo, c'est la Gestapo de Vichy. D'accord. Avec des antennes. Avec deux antennes et une antenne à Clermont-Ferrand et une antenne à Moulins, à Montluçon, pardon.
D'accord. Oui, donc c'était séparé déjà.
Voilà.
Les SS et l'armée allemande étaient déjà un peu séparés.
Non, parce qu'en fait, la CIPO, non, c'est plus compliqué que ça. Ah bon. La CIPO SD appartient à la SS, mais les troupes SS non, dépendent de l'armée. Donc en fait, d'accord. Elles sont subordonnées à l'armée. Et on n'en a pas eu après juin 40. La seule unité qui est venue dans la région, c'est assez tardivement, et c'est pour protéger Vichy avec une implantation à Thiers.
D'accord.
Voilà, il y a eu beaucoup de légendes qui ont été ensuite racontées, notamment de la présence de SS au Mont-Moucher. C'est erroné, ce sont des légendes. Une des unités qui était au Mont-Moucher portait l'appellation SS comme toutes les forces de police. C'était un bataillon de gendarmes en fait, hein, le SS. D'accord. Polizei Régiment 19. Mais il a pris simplement, ils n'ont pas les uniformes de la SS, je les montre, hein. D'ailleurs, il y a des photos inédites de cette unité-là, ce sont des gendarmes. Mais toutes les forces de police à partir de fin 43, il me semble, oui, c'est ça, prennent l'appellation SS, même si ce n'est pas des SS. Donc ça brouille un petit peu les cartes.
Les pistes, ouais.
Voilà.
Alors, on est avec Christophe Grégoire. On parle de son livre « Les troupes allemandes en Auvergne », 1940-1948. On va faire une petite pause musicale. Bah, j'ai choisi, c'était facile quand même, hein. Le chant des partisans, mais qui est interprété par les Stentors, hein, ces quatre grands comment on peut dire, chanteurs d'opéra, hein, qui ont fait plusieurs CD. Ils ont fait notamment celui-là, qui est assez sympa. Donc on écoute le chant des partisans et on se retrouve tout de suite après.
Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau. Brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a les pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Si tes compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute.
Voilà le chant des partisans. Très belle voix.
C'est magnifique, ça me touche doublement. Cette chanson me glace le corps depuis toujours. Et j'ai choisi dans les dédicaces, systématiquement, chaque dédicace pour ce livre. Je ne veux pas faire évidemment de prosélytisme, quand on parle des troupes allemandes, de cette tragédie, il s'agit de ne pas se tromper. Et je le dédicace systématiquement ainsi, ami. Entends-tu le vol noir des corbeaux dans les plaines? Voilà, j'ai trouvé ça. Alors c'est en plus ces voix. Donc moi je suis très touché par les jolies voix, par l'opéra. D'ailleurs, à force d'écrire, d'être plongé dans la Deuxième Guerre mondiale, dans ces tragédies, eh bien l'année dernière j'ai écrit un roman, Melpomen, qui est une histoire en rapport avec l'opéra. Donc ça me touche beaucoup, et encore plus dans la région où on est, parce qu'on est à côté de la Chaise-Dieu, et j'ai beaucoup de souvenirs à la Chaise-Dieu et avec le festival de musique sacrée de la Chaise-Dieu.
Oui, et puis qui a vu passer de très grandes voix, de très grands orchestres,
hein, oui,
on
oui.
espère que ça repartira.
Oui.
Cette année, comme tout le monde le sait, il a été remis. Christophe Grégoire, Les troupes allemandes en Auvergne, aux éditions de Boré. Combien de temps pour réaliser ce livre il a fallu pour y chercher toutes les archives, hein, parce qu'il y a énormément de photos, hein, vous verrez, on ne peut pas tout expliquer, hein, mais il y a beaucoup de photos. Justement, on a parlé de papiers militaires, des Allemands en plus, hein, donc il fallait les retrouver, ceux-là.
Voilà, alors l'écriture du livre, c'est un an, mais tout était prêt dans ma tête, et puis ça fait une trentaine d'années que j'accumule, hein, de la documentation, en me plongeant complètement sur le sujet, dans ce travail-là, dans cette réalisation, j'ai activé tous les moyens pour avoir des photos, notamment, et puis des recherches, hein, énormément de recherches en archives pour refaire des organigrammes, pour savoir. C'est un livre qui est à la fois ouvert aux néophytes et qui est aussi ouvert aux historiens qui peuvent utiliser les organigrammes, les photos, puisque là, les unités sont clairement identifiées, ce qui n'avait pas été fait, le rapport entre... J'ai passé beaucoup de temps à faire parler les photos, parce que les photos en archive, on les trouve, mais elles sont sans légende. Donc il faut identifier l'unité par comparaison, en connaissance des uniformes. Il faut les localiser. Alors quand on est auvergnat, évidemment, quand on connaît bien sa région, et sincèrement, le fait d'être guide dans la région m'a beaucoup aidé, parce que les montagnes, je les connais, je les ai parcourues à pied pendant des années. Ça aide beaucoup à reconnaître des lieux, et donc de pouvoir faire parler ces photos.
Alors ça, c'est un livre, bien sûr, Les troupes allemandes en Auvergne. Est-ce que ce livre, qui peut-être va être diffusé en Allemagne, pourquoi pas, est-ce que ça pourrait pas intéresser des Allemands? Parce que les Allemands étaient comme les Français, hein, des familles qui ont perdu des soldats, et peut-être là se remémorer ce qui s'est passé, où ils étaient en garnison. Est-ce qu'on peut imaginer ça?
Il a un petit défaut, c'est qu'il est, même s'il y a beaucoup de termes en allemand, et ça, alors je fais un aparté, mais j'y tiens beaucoup, les unités, le nom des unités, je le donne systématiquement dans la langue d'origine, ça évite les confusions. Sinon, eh bien, par le passé, c'est pas ce qui était fait et ça complique beaucoup après quand on fait des recherches et qu'on cherche à s'appuyer sur un travail. Alors, il est écrit en français. Il est évident qu'en Allemagne, rien n'a été publié sur les troupes d'occupation en Auvergne. Effectivement, ça peut intéresser parce que si on additionne les familles de tous ces gens qui ont séjourné longtemps, ne serait-ce que les 10 000 prisonniers, que ce soit tous les hommes qui ont séjourné ici, bien sûr, ça peut.
Oui, puis des générations comme les nôtres qui n'ont pas connu la guerre. Des générations comme les nôtres qui n'ont pas connu la guerre, en fait. Ça peut être intéressant de savoir ce qui s'est passé, que des Allemands étaient en France prisonniers, bien sûr, des Français étaient en Allemagne prisonniers. Juste en aparté, le terrain de foot de Craponne a été fait par des prisonniers allemands. Voilà. C'est reconnu. Et ça fait donc 1900... Je pense qu'ils étaient là en 1945. Ça fait près de 80 ans. Et il est toujours vivant, le terrain. Donc, ils avaient bien fait du bon travail. Mais c'était comme ça, parce qu'il n'y avait pas que non plus les batailles, la guerre. Il y avait comme des Français qui étaient en Allemagne et qui étaient dans des fermes, qui étaient dans des... Enfin, des fois, dans des travaux un petit peu durs. Mais comme les Allemands qui étaient dans les fermes ou qui faisaient des travaux d'intérêt public, ça aussi c'est alors, c'est partagé quoi.
Alors en plus il y a eu assez peu d'antagonisme à ce moment-là puisque la plupart des prisonniers qu'on a eu en Auvergne, et c'est pas des gens qui ont été capturés en Auvergne, c'est l'armée de Norvège, Finlande-Norvège, qui a capitulé le dernier jour de la guerre, et les camps américains, anglais et canadiens étant archi complet, eh bien, c'est ces types-là qui sont venus en France, pour la majorité. Il y a quand même des gens qui ont combattu en Auvergne, qui ont été prisonniers ici, et surtout, ou qui ont été rapatriés dans des camps dans la région, et surtout autour de Clermont-Ferrand, parce qu'ils étaient impliqués dans des crimes de guerre. Et pour pouvoir les juger, il fallait qu'ils soient sur place. Mais la grande majorité, je présente un livret militaire, notamment à la fin de l'ouvrage, d'un soldat qui était en Laponie, qui a combattu en Laponie, et qui c'est un Silésien qui est arrivé en 1945 ici. Et voilà, c'est des gens qui n'avaient pas combattu en France, jamais. Bon, il n'y avait pas de raison de... Beaucoup ont travaillé aussi bien qu'ils l'ont pu. En revanche, et ça je tiens à le dire en présentant un livre sur les troupes allemandes, aussi bien dans la préface que a eu la gentillesse de me faire le général Gilles Lévy, et moi dans le texte de présentation, je tiens bien à mettre en garde que tous ces beaux véhicules, que ces beaux uniformes que l'on voit ne masque pas l'idéologie qui était derrière. C'est très important à souligner.
Oui, ben ça, on a su, enfin pas nous, mais nos parents, nos grands-parents ont su ce qui se passait. Il y en a, disons que, encore que nous, toujours pareil, dans les campagnes, les gens ont beaucoup moins souffert qu'en ville, où il n'y avait rien à manger, où c'était compliqué. Bon, on est dans le couvre-feu. Mais enfin, c'était des couvre-feux qui étaient à risque. Bon, nous, même si on sort après 9 heures, on risque une amende, mais c'est tout, on ne prendra pas un coup de fusil.
Voilà.
Et là, c'était plus compliqué. Donc, les troupes allemandes en Auvergne, Christophe Grégoire, qui nous a fait un magnifique livre aux éditions de Boré. Ce livre est sorti depuis très peu.
Il est sorti le 15 octobre.
Ah oui, alors c'est chaud bouillant.
Voilà, c'est chaud bouillant.
Et alors, il n'y a déjà pas de retour, peut-être passé un petit peu tôt.
Il sent
bien.
Oui, il a très très bien démarré. Et les critiques sont assez unanimes. Et voilà, on parle d'un travail qui plaît, qui est assez phénoménal, ce qui est reconnu. Le sujet était inédit. On les voit jusqu'à présent. Il n'y avait pas de choses satisfaisantes. Les recherches avaient quand même, je tiens à le dire, le sujet avait été débroussaillé, on peut le dire, par le général Lévy dans Auvergne et par Eugène Martre, où la plupart des unités allemandes sur le secteur avaient été identifiées. Maintenant, c'est des travaux qui restaient à compléter.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer, avec ce livre, pour les collégiens, les écoliers, qu'on peut s'inspirer de ce livre pour leur parler peut-être de la guerre de 39-45 autrement ?
Ah ben, tout à fait. Alors, c'est bien sûr, là, ce n'est qu'un volet de la guerre, hein, mais tant...
ça concerne notre région.
Oui, alors ça concerne notre région. Bien sûr, en face, il y avait toute la partie résistance, mais qui a déjà été beaucoup plus travaillée. Il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont sortis sur la résistance. Bientôt, je m'attellerai à un grand projet sur la résistance auvergnate. Hein, il manque un grand livre sur la bataille du Montmouchet qui lui soit consacré de façon précise, mais... voilà, c'est le volet allemand.
Oui, ben savoir les troupes qu'il y avait en Auvergne, ce qu'elles ont fait, ben, ça n'a pas été non plus une persécution sans arrêt, hein, c'était une occupation, hein. De toute façon, ils n'avaient pas le choix, hein, parce que les ordres descendaient d'en haut, hein, on sait comment ça se passe dans l'armée, on ne peut pas trop aller contre les ordres, en plus du Führer, qui était un petit peu un grand dictateur, quoi, bon... Mais bah oui, c'est intéressant de savoir qu'il y a eu beaucoup d'Allemands à une époque en Auvergne, beaucoup de troupes allemandes, et ce qu'elles ont fait, quoi.
Voilà. Et alors, ce livre, évidemment, qui ne concerne que les Allemands, il ne faut pas occulter qu'évidemment, ces troupes allemandes, je pense principalement des troupes de répression, on se rend compte que les troupes de sécurité chargées de traquer le maquis, hein, c'est-à-dire grosso modo la police, et la CIPOSD, la Gestapo, ils ont excessivement peu de moyens humains, matériels. En revanche, ils ont la police française, ils ont la milice. Et sans la police française, sans la milice, ils auraient eu encore moins de résultats. On se rend compte en travaillant sur ces gens-là, en suivant leur parcours, en fait, il y a très peu de policiers. Donc la police est quelque chose qui s'apprend. Et les résultats qu'ils obtiennent, c'est principalement par la brutalité. Et puis voilà, mais on a assez peu de policiers.
Oui, puisqu'on disait en aparté, c'est vrai que finalement, il y avait des Allemands, mais pas que.
Pas que.
Et oui, il y avait d'autres nationalités qui s'étaient retrouvées là.
Voilà.
Hein, donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué quand même l'histoire. Hein. L'histoire est toujours compliquée. Alors, comme on dit, il y a des légendes, hein, parce qu'ils se rencontrent tout et n'importe quoi. Bon, nous, on n'est pas là pour le dire, hein, on ne sait pas. Et même ceux qui ont fait la guerre 39-40, il n'y reste pas trop, hein, maintenant. Donc, alors c'est vrai qu'on a toujours tendance ou à romancer certaines choses ou peut-être en exagérer d'autres. Hein. On s'en rend compte quand on fait un livre comme ça ?
Ah ben évidemment. Déjà, on se rend compte... Le fait d'identifier les unités permet d'éviter les légendes. Je vais le dire clair et net. La Das Reich, par exemple, n'a jamais combattu au Montmouchet. Pourtant, combien de livres, de romans parlent de la Das Reich ? La Das Reich, elle est venue effectivement. Volontairement, je ne l'ai pas évoquée dans le livre. Il y a un petit passage d'unité de la Das Reich dans le Cantal où ils vont juste passer et rester peut-être une journée sans réellement être impliqués. Et c'est pas parce qu'on n'a pas eu la Das Reich que le maquis n'a pas eu des unités en face pour le combattre. Valable. Je parlais tout à l'heure du 1000e régiment motorisé. C'est une unité qui a été constituée pour lutter contre les parachutistes alliés en vue du débarquement. Les Allemands pensaient qu'il y aurait le débarquement, que les Allemands viendraient bien sûr lutter contre ces troupes débarquées, formeraient un front, et que les aéroportés alliés, eh bien, iraient derrière ce front. Et donc, en vue de cette option, ils avaient monté cette unité motorisée. Le plan allié n'était pas ainsi. C'était le contraire. Hein. C'est les parachutistes qui sont arrivés les premiers et qui ont sécurisé les plages. Donc, cette troupe motorisée n'avait plus de réel intérêt. Donc, elle a été envoyée. Elle est partie de Montargis pour combattre le maquis. Et elle a fait des dégâts considérables avec ces petits canons que je montre de 2 cm. Flak, DCA hein, pour les Français. Flak en allemand. Qui était obsolète dans un tir anti-aérien en 1944. Il ne l'était pas en 40, mais en 44 il l'était. Mais en revanche, en tir direct sur les positions du maquis, sur des maisons, ça causait des ravages considérables. Et les Allemands ont utilisé des blindés, des automitrailleuses, de très très bonnes automitrailleuses. Je les montre, ces automitrailleuses. Il n'y a pas eu de char, bien que combien de témoignages parlent de chars allemands au Montmouchet. Voilà. Donc, On évacue les légendes et
on est la vérité.
Autant que faire se peut. Oui,
oui, mais enfin quand même, après avoir documenté comme ça, je pense qu'on passe pas à côté de la vérité quand même.
Non, non, l'essentiel après.
La vraie histoire, plutôt
voilà.
Que la vérité.
Alors
la vraie
après, il y a des doutes des fois qui peuvent sur vraiment des détails. Il reste des petites choses, hein. J'espère que bien, ces travaux, de toute façon, un jour, eh bien, quelqu'un les complétera. Mais c'est vraiment des détails extrêmement extrêmement techniques. Par exemple, on parlait de chars. Les Allemands sont arrivés avec une compagnie de chars en Auvergne. Alors, dans leurs archives, la date déjà n'est pas claire. Mais ces chars sont restés à Saint-Ivoine, à côté de d'Issoire, et n'ont jamais été engagés au Montmouchet. Alors, on ne sait pas exactement ce que sont ces chars. Il y a un symbole tactique qui représenterait alors des canons d'assaut semi-chenillés, c'est unique, hein, on ne le connaissait pas, symbole tactique, il a sans doute été créé pour cette unité, donc ça pourrait laisser penser un seul engin des Citroën Kégress, c'est-à-dire du matériel français réutilisé, mais tant qu'on n'a pas vu une photo, on ne peut pas en être sûr. Voilà, parce que entre la théorie et la pratique, eh bien, on a des fois des surprises, tout n'est pas dans les archives, il faut compléter avec des photos.
Ok, justement, puisqu'on parle des photos, on n'en a pas parlé. Donc, les photos ont été faites par Laurence Baruel, c'est ça ?
Alors, ça, c'est
une
pour les
photos.
Voilà, les photos, c'est les photos, je me suis.
Tu as été refotographié ? Ça, non ?
Non, c'est pas ça. C'est que j'ai demandé à voir pour photographier. On a dû aller au Montmouchet, notamment, ouais. Faire des photographies d'objets, parce que je voulais montrer des objets dans le musée, bien sûr, des casques, des armes. Ouais. Et puis, j'ai fait appel à tous les collectionneurs de la région. En leur demandant de me montrer leurs plus belles pièces, bon, des trophées pris au Montmouchet, voilà. Et donc, pour les photographier, c'est Laurence Baruel qui fait des très très belles photos, qui illustre aussi, je crois, un livre de Daniel et Brugès, voilà, sur les vaches et des photos très très bonnes, très très grande artiste.
Voilà, donc on parle.
Ponote, hein, je crois.
Pardon.
Elle est Ponote, il me semble. Hein.
Oui, oui, voilà. Elle habite à côté du puits.
Voilà.
Oui, elle est, c'est une Ponote. Est, photographe professionnel, mais qui fait des photos magnifiques. Donc aujourd'hui, Christophe Grégoire nous a parlé de son livre Les troupes allemandes en Auvergne, 1940-1948, aux éditions de Boré. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Christophe ?
Eh bien, je vais parler de mon projet futur.
Ben voilà, parlons-en.
L'année prochaine sortira un livre concernant l'équipe française de la Gestapo de Vichy. Là, j'emploie volontairement le mot Gestapo, c'est la CIPO SD, l'équipe du commissaire Bâtissier, très proche de Gessler. À l'origine, mon idée était de faire un livre historique, mais il y avait trop de manques dans les archives, puisque leurs propres archives ont été brûlées, évidemment, et on ne les a interrogées qu'en rapport des affaires qui étaient connues à l'époque, c'est-à-dire des déportés, des gens qui ont survécu. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'affaires qui n'étaient pas traitées, donc c'était pas possible de faire un livre historique. En revanche, je voulais faire quelque chose, utiliser la matière qu'il y avait, et j'ai donc fait un roman, mais qui est extrêmement peu romancé. Hein, toutes les affaires, elles sont traitées de manière historique, et c'est très très proche de la réalité. En tout cas, dans les affaires, c'est comme un livre d'histoire.
Ça sort en 2021 ?
Ça sortira en 2021.
Toujours chez De Boré ?
Je ne sais pas encore. Ah, hein, pas voilà, il y a c'est pas encore statué. Non, mais enfin, il y a un éditeur, de toute façon.
Il
y a un éditeur.
Oui,
voilà.
Bon,
j'espère chez De Boré.
Non, mais on ne sait pas encore lequel.
Voilà.
Ok. Bon, ben, Christophe, merci d'avoir été avec nous. Donc, bien sûr, comme on termine l'émission, on dit, hein, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies, notamment, je pense qu'à Craponne, elles l'ont déjà, parce que je l'ai vu. Notre amie Viviane et Marie-Pierre, Le plaisir des mots, Les troupes allemandes en Auvergne, je l'ai vu, il me semble, autrefois. Donc, il est déjà là, vous pouvez aller vous le procurer, hein. C'est un magnifique livre, puis ça vous révélera peut-être des choses qu'on vous a jamais dit ou qu'on n'avait peut-être jamais pensé, hein, surtout, c'est ça.
Je crois qu'il y a pas mal à apprendre dans cet ouvrage.
Et
merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous. Hein,
merci aux auditeurs.
On va pas dire bonne saison, parce que c'est mal engagé. D'abord la neige, et puis après le Covid, alors on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais enfin, il y a des balades à faire quand même en Auvergne, même sans neige.
Et puis alors moi, j'ai la chance quand je skie pas ou que je me balade pas par monts et par vaux, eh bien je prends mon stylo et puis je peux écrire.
Ok, et eh bien merci. Puis
merci beaucoup.
On va se quitter avec Barbara. Tu nous interprètes Liberté, hein, c'est tellement important la liberté. Malheureusement, toutes ces guerres n'ont rien changé, hein, franchement, parce qu'on voit que dans le monde entier, on continue de se massacrer.
Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui voulaient te défendre? Les voilà tes amis, ils étaient trop petits, et demain le bourreau va les pendre. Ils aimaient bien leurs enfants, ils aimaient bien leurs parents, et pas qu'un peu le vin rouge et l'amour, mais quelque chose manquait qu'ils ne pouvaient expliquer, et c'était toi. Liberté, des beaux jours, avec une rose au chapeau, bien plus jolie qu'un drapeau. Toi devant eux, un jour s'en sont allés, mais ils n'ont pas fait quatre pas que les sergents étaient là, qui les tenaient au bout des pistolets. N'as-tu pas de visage, liberté, l'un joyeux, l'autre grave? Liberté, 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 qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui t'ont cru sur parole? Ils ne t'ont jamais vu, ils ne te verront plus. Liberté, femme rêve des hommes, ils ne vivaient que par toi, ils ne parlaient que de toi, et c'est pour toi qu'ils prieront dans le ciel. Rien n'a changé dans leur cœur, ils n'ont pas froid, n'ont pas peur. C'est toujours toi, liberté, leur soleil. Quand on les a condamnés, ils ont salué sans pleurer, et l'un à l'autre, ils se sont embrassés. Ils ont crié vive le roi, vive la reine et la loi, mais surtout vive, vive la liberté.
Voilà, aujourd'hui, notre invité du jeudi était Christophe Grégoire, qui nous a parlé des troupes allemandes en Auvergne de 1940 à 1948. Hein, un très beau livre. Donc, c'était notre invité du jeudi. Vous savez que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Bonne journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. L'invité du jeudi est terminé.